sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 18 juin 2008, sous la coupole de l'Institut de France, Son Altesse le Prince Karim Aga Khan a été reçu membre associé étranger à l'Académie des Beaux-Arts par le secrétaire perpétuel Arnaud Dautrier. Le Prince Karim Aga Khan a été élu le 21 novembre 2007 au fauteuil précédemment occupé par Kenzo Tanguay. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance d'installation durant laquelle le nouvel élu prononce l'éloge de son prédécesseur. Retrouvons Yves Mikan, président de l'Académie des Beaux-Arts en 2008, pour l'ouverture de la séance.
La séance est ouverte. Madame le représentant de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Chancelier, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les Présidents, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour la réception de Son Altesse le Prince Aga Khan, élu membre associé étranger de notre Académie le 21 novembre 2007, au fauteuil précédemment occupé par notre regretté confrère Kenzo Tang. La parole est à Monsieur Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.
Madame le représentant de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Chancelier, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les présidents, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Je suis infiniment honoré de recevoir aujourd'hui Son Altesse le Prince Karim Aga Khan au sein de notre compagnie en tant que membre associé étranger au fauteuil de Kenzo Tanguay. Cette journée revêt un caractère historique. C'est en effet la première fois dans l'histoire de notre compagnie que nous accueillons un chef spirituel. Et je me réjouis profondément de cet honneur et de cet événement pour l'Académie des Beaux-Arts, mais également pour l'Institut de France, dont j'ai le privilège d'être aujourd'hui le porte-parole. M'est en effet échue en cette journée exceptionnelle la tâche peu aisée de présenter la pensée et l'action de Votre Altesse. Je m'en acquitte avec un mélange de fierté et d'humilité, sans espérer en restituer ni la richesse ni la diversité. Votre Altesse est le 49e imam héréditaire des Ismaéliens, famille du chiisme, le guide spirituel d'une communauté de 15 millions de fidèles disséminés à travers le monde dans 25 pays, principalement en Asie occidentale et centrale, en Afrique et au Moyen-Orient, mais également en Amérique du Nord et en Europe. Vous célébrez depuis juillet 2007 votre jubilé d'or qui vient consacrer 50 années d'imamat depuis ce jour du 11 juillet 1957 où, suite à la désignation de votre grand-père, Sir Sultan Mohamed Shah Aga Khan III, vous êtes devenu, à l'âge de 20 ans, le chef spirituel des Ismaéliens. Votre naissance et votre éducation vous ont placé au confluent de plusieurs traditions spirituelles et culturelles majeures. Nourrie de cultures indiennes, italiennes et anglaises, par vos parents, le prince Ali Khan et la princesse Tajuddin Ali Khan, de culture africaine par votre enfance passée à Nairobi, vous avez parachevé la tradition d'ouverture au monde qui a été, d'emblée, votre héritage par vos études effectuées en Suisse et à Harvard, dont vous êtes diplômé en histoire islamique. Depuis toujours, votre vision de l'islam et du monde contemporain est profondément imprégnée de ce legs précieux. Depuis 50 ans, votre imamat est également dominé par une prise en compte exemplaire du principe propre à votre religion de continuité entre la vie spirituelle et vie matérielle. Ainsi, la religion est-elle à vos yeux consubstantiellement historique et agissante, d'abord parce que la signification n'y est pas donnée de toute éternité dans un ciel des idées ou un livre, fût-il le livre, mais parce qu'elle se construit, guidée par l'imam du temps, dans l'espace d'une vie humaine inscrite dans un lieu et un temps précis. Cette conception d'une révélation constamment en train de se produire, vous l'avez ainsi commentée dans votre discours d'inauguration de l'Université d'Asie centrale en 2000. La création n'est pas statique, mais continue. À travers les sciences et d'autres efforts, Dieu a ouvert et continue d'ouvrir de nouvelles portes pour que nous puissions admirer les merveilles de sa création. Il s'agit donc de mieux s'instruire pour mieux connaître la création de Dieu. Ce rôle de l'intelligence dans la notion même de foi, concept central dans la doctrine ismaélienne, vous est particulièrement cher. Et vous avez maintes fois développé ce thème dans vos discours et allocutions. La révélation est double. Elle repose sur ce qui a été révélé au prophète, mais aussi sur ce à quoi l'homme est capable d'accéder à travers le don de sa propre intelligence. Je ne pense pas me tromper en affirmant que votre mandat spirituel est votre action. Nous avons compris que l'une est à vos yeux la manifestation et la justification de l'autre, sont intimement guidées par ces principes depuis 50 ans. Bien sûr, l'engagement dans les problèmes du monde est pour vous une tradition familiale. Ainsi, votre grand-père joua un rôle déterminant dans l'évolution politique du sous-continent indien. Il fut délégué aux conférences de la table ronde à Londres dans les années 1930 et président de la Société des Nations de 1937 à 1939. Votre père, le prince Ali Khan, fut ambassadeur du Pakistan auprès des Nations Unies. Votre oncle, le prince Sadruddin Aga Khan, exerça les fonctions de haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, entre autres responsabilités humanitaires de premier ordre. Cette tradition est aujourd'hui largement relevée par l'ensemble de votre famille présente aujourd'hui et que je salue. Votre frère, le prince Amin, ainsi que vos enfants, la princesse Zahra, le prince Rahim et le prince Hussein, étroitement impliqués à vos côtés dans la gestion des principales institutions de l'imamat. Mais c'est sans doute également une réflexion intime s'agissant de votre religion et de votre responsabilité personnelle qui vous a conduit à mettre en œuvre une action d'aide au développement inédite du point de vue de son échelle, de son implication et de ses principes d'action. Le réseau Aga Khan de développement, l'un des plus importants groupes d'agences de développement privées au monde, présent dans 27 pays. Il y emploie 57 000 salariés, dont vous avez défini la mission comme l'amélioration des conditions de vie et des opportunités pour les pauvres, sans considération de foi, origine ou race. Ces trois branches principales, les activités économiques, sociales et culturelles, poursuivent toutes leurs missions spécifiques dans l'esprit que Votre Altesse leur a assigné. Celui du développement comme capacité à accroître l'autonomie de la personne. Ainsi, qu'il s'agisse de promouvoir la santé, l'éducation, dont vous avez fait une priorité absolue de votre action, ou la culture, l'ensemble des actions mises en œuvre par le réseau Agacan vise à s'ancrer durablement dans les modes de vie des communautés concernées, en les incitant à s'approprier directement les leviers du développement. Le soutien à l'initiative privée est le moteur de ce système, traduction de votre conception centrale de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa propre destinée. Décrétant une véritable bataille contre l'ignorance dans laquelle vous voyez le principal fléau du monde contemporain, vous avez prolongé l'action pionnière de votre grand-père en matière de construction d'écoles en lui donnant une impulsion sans précédent. Les établissements scolaires fondés à votre initiative sont aujourd'hui au nombre de 300 dans le monde en développement, de la maternelle à l'université. En 1983, vous avez créé la première université internationale privée, non confessionnelle et pluridisciplinaire du Pakistan, l'université Aga Khan, qui abrite une formation aux sciences de la santé et de l'éducation, ainsi qu'une faculté des lettres et des sciences. En 2000, vous avez également fondé avec les présidents du Kazakhstan, du Kirghizistan et du Tadjikistan l'Université d'Asie centrale, premier établissement d'enseignement supérieur laïque et privé visant à stimuler le développement des zones de haute montagne d'Asie centrale. Au sein de cette vaste et protéiforme entreprise de développement, la culture occupe une place privilégiée. Ce choix précoce est sous-tendu par la conviction profonde qu'a Votre Altesse de l'importance des éléments culturels au sein du processus global d'amélioration des conditions de vie des populations. Cette conviction a pu vous faire dire récemment que vous aviez, je cite, « souhaité placer la culture au cœur de la problématique du développement ». Vous pensez en effet que la culture, loin d'être un agrément seulement accessible aux populations les plus favorisées, peut constituer un véritable catalyseur du développement dans les communautés déshéritées dont elles constituent souvent, mais encore faut-il en prendre conscience, la seule véritable richesse. Ainsi, avez-vous pu démontrer à travers votre action en faveur de la revitalisation du patrimoine historique des populations défavorisées que cette dernière constituait à la fois le moteur d'un développement économique et social par les nouvelles activités qu'elle générait, mais aussi un formidable levier moral dans lequel s'ancrait fierté et sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Cette conception novatrice de la culture comme levier à la fois matériel et spirituel à la pauvreté vous a conduit à devenir l'une des personnalités les plus engagées du monde en matière d'architecture. Qu'il s'agisse de réhabilitation du patrimoine ou de promotion de l'architecture contemporaine. Vous considérez cet engagement comme l'héritage de votre lignée, celle des Fatimides, promoteurs des arts, des sciences et des mathématiques, et grand bâtisseur dont l'action architecturale a vu l'apogée dans la fondation du Caire médiéval. Construite à la fin du Xe siècle, la mosquée Al-Azhar et sa madrassa, deuxième plus ancienne université du monde, en sont l'une des réalisations emblématiques. Vous aimez également à citer Dar al-Halim, la maison de la connaissance, fondée au Caire en 1005 par le sixième imam calife Fatimide, la première institution médiévale consacrée à l'enseignement supérieur où les étudiants de toute confession apprenaient aussi bien la religion que la jurisprudence, la grammaire que la médecine, la logique, les mathématiques et l'astronomie, dans un esprit d'ouverture et de tolérance que vous distinguez comme l'une des caractéristiques principales de la doctrine ismaélienne. Mais je ne pense pas me tromper en affirmant que vous avez également développé une vision, je dirais même une philosophie très personnelle de l'architecture. L'architecture est en effet pour vous la pierre angulaire de votre conception de la culture telle que je viens de m'efforcer de la résumer. Par l'impact immédiat qu'elle a sur la vie matérielle, mais également spirituelle de l'individu. L'architecture porte intrinsèquement en elle ce que vous appelez le processus du changement. Cette conviction est née de votre rencontre avec l'extrême pauvreté au début des années 1960 en Inde et au Pakistan. Vous prenez alors conscience, je vous cite, de l'impact visuel, physique, affectif du logement sur la vitalité de l'être humain, c'est-à-dire de la responsabilité déterminante du lieu de vie, du contexte physique sur les possibilités de développement de l'individu. En phase, dès cette époque, avec les thèses les plus contemporaines en matière d'architecture éthique et de développement durable, vous affirmez que, bien qu'il soit impossible d'en quantifier les effets, un logement convenable donne les moyens de franchir le terrible fossé qui sépare la pauvreté d'un avenir meilleur. Cette appréhension du phénomène architectural ne saurait que passionner les membres de notre compagnie et bien sûr, particulièrement, les membres de notre section d'architecture. À une petite échelle, comparée aux réalisations dont vous êtes à l'initiative, le Grand Prix d'architecture de notre compagnie demande aujourd'hui aux jeunes générations d'imaginer au sein d'un cycle de 3 ans le nouvel établissement humain, c'est-à-dire une manière durable et respectueuse d'habiter la Terre. Toutes les actions que vous avez entreprises en la matière ont été guidées par cette prise de conscience de l'architecture comme moyen d'améliorer le bien-être des communautés et de l'individu. Ainsi, le prix Aga Khan d'architecture, l'un des concours les plus prestigieux du monde dans cette discipline, que vous avez créé en 1977, ne s'attache pas tant à récompenser des ouvrages spectaculaires d'un point de vue formel que des réalisations programmatiques, c'est-à-dire porteuses de solutions novatrices en matière de développement social et s'appuyant sur l'utilisation des ressources locales. C'est ainsi qu'il a pu être décerné en 2004 à l'architecte Nader Khalili pour des abris composés en sacs de sable. Quelle belle idée de penser que Kenzo Tange, au fauteuil duquel vous êtes reçu aujourd'hui parmi nous, a été membre du premier jury de ce prix en 1978. La même conception sous-tend le vaste programme de soutien aux villes historiques établi par Votre Altesse en 1992. visant à conserver et réhabiliter édifices historiques et espaces urbains au sein du monde musulman. Cette initiative est en effet régie par l'obligation pour chaque projet mis en œuvre de servir de moteur à un développement global de la communauté concernée par cette réalisation. Au cours des 10 dernières années, elle a conduit à réhabiliter de très nombreux sites historiques en Afghanistan, en Syrie, en Tanzanie, dans le nord du Pakistan, au Mali ou en Inde. Ne pouvant parler de toutes ces réalisations ici, qu'il me soit permis d'évoquer le spectaculaire projet achevé au Caire en 2005 ou à l'emplacement d'une décharge à ciel ouvert de 30 hectares, le Trust Aga Khan pour la culture a présidé à l'édification du parc urbain Al-Assar et à la rénovation du quartier environnant de Darb el-Hamar, l'un des plus déshérités de la capitale, abritant néanmoins l'une des plus grandes concentrations d'art et d'architecture islamique au monde. Cette initiative a non seulement conduit à la création d'un élément de bien-être évident pour la population, mais elle a également autorisé la revitalisation économique de tout un quartier de la ville, en associant la population locale à chaque phase de sa réalisation. Elle est devenue aujourd'hui un cas d'étude pour les spécialistes de la rénovation urbaine et du développement ascendant. La deuxième grande préoccupation de Votre Altesse en matière d'architecture est de susciter de nouvelles inspirations pour l'architecture du monde islamique, à partir d'une prise de conscience renouvelée de l'extraordinaire richesse d'une tradition délaissée au nom d'un certain modernisme. Vous considérez en effet que l'architecture contemporaine dans la sphère musulmane est souvent victime d'une rupture totale avec le passé et l'histoire des pays dans lesquels elle vient s'inscrire. Cette conviction ne s'ancre pas dans un passéisme nostalgique, mais plutôt dans une prudence vigilante face à l'étendard d'une modernité auto-justificatrice. Ce phénomène que vous appelez la déconstruction de l'héritage culturel est porteur, selon vous, d'une perte d'identité, d'une dilution dans les formes stéréotypées d'une globalisation appauvrissante. Il n'est évidemment pas propre aux sociétés musulmanes, et l'Occident est peut-être l'espace géographique et culturel où il se manifeste avec le plus d'acuité. Comment, en effet, ne pas s'attrister aujourd'hui devant tant d'édifices face auxquels, bien loin d'une adhésion à ce qui devrait être l'expression de valeurs partagées, nous ne ressentons qu'une forme d'indifférence et une impression de gratuité si pénible quand ce n'est pas un sentiment de révolte face à la laideur ou la mauvaise utilisation d'espace. Bien sûr, certaines constructions affirment, de par leur spectaculaire nouveauté formelle, une projection vers l'avenir, pareil à un édifice vers l'inconnu, porte à nos yeux le symbole éternel de la capacité humaine à s'abstraire de toute contingence pour réinventer l'avenir. Mais les édifices où nous aimons vivre, où nous nous reconnaissons, ne sont-ils pas le plus souvent ceux qui savent établir un pont entre passé et présent, où nous puisons dans les héritages et les valeurs partagées la force et l'inspiration des projets de demain? Il serait difficile de ne pas voir dans votre décision de soutenir la rénovation d'un fleuron de la culture française une manifestation de cet intérêt profond que les lieux porteurs d'une identité culturelle forte, ceux qui contribuent de manière évidente à la richesse des nations. Si je n'avais la migraine, je vous rendrais compte de mon voyage de Chantilly. Et je vous dirais que de tous les lieux que le soleil éclaire, il n'y en a point un pareil à celui-là. Quel dommage que Madame de Lafayette ait eu la migraine ce jour précis du 28 mai 1673, lorsqu'elle écrit à son amie Madame de Sévigné. Mais le futur auteur de La Princesse de Clèves sait que rien ne saurait mieux décrire l'unicité du lieu que cette absence de description si poétique. Et pour nous, aujourd'hui, Chantilly est bien encore unique, de par l'ampleur de son dessin architectural, ses collections exceptionnelles, ses salons où se donne à voir toute l'histoire de France, ses couloirs bruissant encore des conversations de Molière, de Bossuet ou de Racine. Chantilly symbolise bien l'un des sommets du génie français, l'apogée d'un art de vivre et de penser qui s'impose à son visiteur et l'inspire comme le legs spirituel, quasi invisible que puissant, transmis par ses créateurs, ses habitants, ses mécènes ou ses illustres visiteurs. Car qui sait s'imprégner de l'esprit des lieux n'imagine-t-il pas sans trop de peine le grand Condé discutant de métempsycose avec l'abbé Fénelon, notre cher duc d'Aumale, trois fois académicien et membre de notre compagnie, s'entretenir avec son futur confrère Domé de la ligne d'une façade dans la lumière du couchant ou de précieux incunables dans l'atmosphère capitonnée du cabinet des livres. Ou encore le duc de Bourbon, Louis-Henri, tâtant avec passion la croupe de quelque pur sang dans lequel frémit peut-être l'esprit de son fringant aïeul. Les habitants de Chantilly sont en effet, autant que ces princes, leurs fidèles coursiers, ces êtres créés de vent selon la tradition musulmane, bénédiction de Dieu donnée à l'homme afin qu'il puisse goûter sur son dos une préfiguration des plaisirs célestes. Chantilly, ce sont les plus belles écuries du monde, le lieu de mémoire d'une culture de 5000 ans, l'aventure de l'homme et du cheval à laquelle Votre Altesse est attachée par une tradition familiale aussi vivace depuis 4 générations. De l'épopée légendaire du départ de Perse du premier Aga Khan sur ce qu'on appelait les plus beaux chevaux de la terre, jusqu'aux victoires, elles aussi légendaires, de vos purs sangs, les chevaux sont les compagnons et les fidèles alliés de votre famille, témoins silencieux d'un temps révolu et garant de la continuité d'une magnifique tradition. Cette tradition est venue rencontrer au domaine de Chantilly la passion d'un patrimoine vivant que plusieurs centaines de milliers de visiteurs découvrent chaque année. À travers la rénovation de l'hippodrome, achevée en 2004, Votre Altesse a permis que se perpétue également celle des courses brillantes instaurées au XVIIIe siècle, dont le prix de Diane ou le prix du Jockey Club sont aujourd'hui le prolongement. Célébration aussi festive que prestigieuse pour l'équitation française. L'année suivante, vous vous êtes pleinement engagé à la suite d'échanges déterminants avec feu le chancelier Pierre Messmer et monsieur le chancelier Gabriel de Broglie, assisté par monsieur Alain Decaux, dans un projet de rénovation et de développement du domaine géré par une structure que vous avez créée, la Fondation pour le développement et la sauvegarde de Chantilly. La tâche est immense, mais elle ne vous rebute pas. Pareil à le nôtre, lançant un plan de 20 ans pour réaliser des jardins dignes des lieux, c'est également un vaste projet de 20 ans englobant la totalité du site que vous décidez de soutenir, destiné à rendre au domaine sa splendeur d'antan par la restauration du château. Nous venons d'en voir une éclatante manifestation avec l'achèvement de la restauration de la Grande Singerie, mais également des collections, la réhabilitation et la restitution du parc à l'époque des Condés. Le plan consiste également en un projet global d'aménagement qui permettra d'assurer la pérennité économique et environnementale du domaine, tout en l'imposant comme une référence culturelle incontournable. Ainsi, grâce à un prince d'Orient qui sut en prendre la mesure, le legs précieux d'un prince d'Occident pourra-t-il être durablement préservé ? Oui, c'est bien l'ambition des grands princes français qui se voient ainsi relevés par Votre Altesse lorsqu'elle se fait l'artisan d'une renaissance aussi spectaculaire dans sa réalité que modeste dans sa formulation. Vous affirmez ainsi n'être à Chantilly qu'un simple passeur. Et cette humilité en dit plus que bien des mots. Car qu'y a-t-il de plus utile au monde aujourd'hui que des passeurs ? Il n'y a pas de choc des civilisations, mais des ignorances, ne cessez-vous de répéter. Vous élevez souvent contre la méconnaissance de la complexité du soi-disant monde musulman par les pays occidentaux, mais également contre l'ignorance des pays de la sphère musulmane s'agissant de leur propre histoire. Cette ignorance, née de la paresse intellectuelle, de la fermeture d'esprit ou souvent imposée par des motivations politiques évidentes, vous la considérez comme la principale menace de notre monde. Contre ceux qui veulent simplifier pour mieux tromper, nier la diversité du monde pour mieux légitimer leur action, votre entreprise dans le domaine de l'éducation et de la culture s'apparente à une croisade pour le pluralisme, thème qui vous est peut-être le plus cher. La défense du pluralisme n'est pas un pâle compromis. C'est un impératif sacré, avez-vous pu dire tout récemment à l'Institut d'études politiques de Paris. Dans cette bataille, vous estimez que l'art et la culture ont un rôle essentiel à jouer. Si la culture façonne l'identité de chaque communauté en lui faisant prendre conscience de son unicité, elle peut également être le vecteur mystérieux d'un dialogue entre les civilisations à travers le musée imaginaire. Les deux magnifiques expositions que nous avons pu admirer cette année au Louvre, chef-d'œuvre islamique de l'Aga Khan Museum et le chant du monde, l'art de l'Iran safavide, témoignaient de cette certitude en montrant le foisonnement esthétique d'un monde dont l'apogée a toujours coïncidé avec les périodes d'ouverture, comme vous aimez à le souligner. Vous avez également souhaité que le futur Aga Khan Museum de Toronto, conçu par l'architecte Fumihiko Maki, élève de Kenzo Tange, soit une illustration de la diversité historique, culturelle et géographique de la culture islamique, ainsi qu'un forum d'échange permanent entre le monde islamique et le monde occidental. Le futur musée maritime de Zanzibar, dédié à la présentation des différentes cultures maritimes de l'océan Indien, sera lui aussi conçu comme un lieu de dialogue entre Afrique, Moyen-Orient et sous-continent indien. À travers toutes ces initiatives, vous vous faites le défenseur d'une vision spirituelle de l'art comme pont entre les hommes, creuset où le génie des peuples s'exprime sous une forme reconnaissable universellement. Vous incarnez vous-même aujourd'hui un pont entre ces deux sphères si ignorantes d'elles-mêmes, le monde occidental et le monde musulman. En personnifiant une exigence d'excellence, de compréhension et de solidarité vous défendez une conception de la spiritualité et de la responsabilité humaine dans laquelle tout individu peut se reconnaître. Cette sagesse dessine aujourd'hui l'impératif catégorique d'un monde cerné de menaces et de catastrophes où la vitesse et la technologie ne garantissent ni le respect ni l'épanouissement de la personne humaine. Votre pensée et votre action de citoyen du monde, au sens des Lumières, représente une richesse et une chance dans la configuration du monde contemporain, tout en s'accompagnant d'une discrétion, d'un pragmatisme et d'une humilité dont vous ne cessez de rappeler la valeur ultime. Vous croyez, comme nous, à la prédominance des œuvres de l'esprit. Vous pensez avec nous que l'intelligence est affaire de complexité, que le pluralisme est synonyme de richesse et que c'est dans le partage des connaissances que se construit la pensée la plus digne de l'homme. Oui, Votre Altesse a bien sa place au sein du Parlement des savants. Alors, si votre modestie doit être exceptionnellement mise à mal aujourd'hui, qu'il me soit permis de dire au nom de tout l'Institut de France, réuni en ces lieux, que nous sommes très fiers et très heureux de compter désormais Votre Altesse parmi nous. Merci.
Monsieur le secrétaire perpétuel, mon cher confrère, je vous remercie. La parole est à présent à Son Altesse le Prince Aga Khan, qui prononcera un discours en hommage à son prédécesseur Kenzo Tang et nous livrera ses réflexions sur l'habitat et l'architecture.
Madame le représentant du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le chancelier, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les présidents, mes chers confrères, Madame et Messieurs. Alfred de Vigny écrivait dans son journal d'un poète que l'honneur, c'est la poésie du devoir. L'honneur, mes chers confrères, puisque j'ai la joie de pouvoir vous appeler ainsi, cet honneur que vous me faites de rejoindre votre compagnie dans cette auguste maison, je le ressens comme un immense bonheur et effectivement comme un grand devoir. Un devoir envers vous, un devoir vis-à-vis de Kenzo Tange, un devoir enfin envers ceux qui nous suivront. L'histoire de ma famille est celle d'une transmission ininterrompue à travers le temps, de valeurs non seulement religieuses mais également culturelles. Depuis un événement fondateur qui remonte à presque 14 siècles. Vous comprendrez dès lors que je me sens intellectuellement et affectivement proche de cette admirable tradition de l'Académie des Beaux-Arts. Par l'éloge de celui qui est parti, celui qui est admis contribue à transmettre aux générations futures un peu de celui qui n'est plus. C'est donc avec le plus grand respect que je vais m'incliner devant Kenzo Tange, que vous avez admis en votre sein il y a quelques années. J'ai cherché à comprendre ce qui conduisit Kenzo Tange sous cette coupole. Le jury du prix Pritzker d'architecture, lors de son attribution à Kenzo Tange en 1987, alors qu'il avait 74 ans, avait dit de lui, Kenzo Tange parvient à des formes qui élèvent nos cœurs parce qu'elles émergent d'un passé ancien, dont nous avons à peine la réminiscence, et pourtant, elles nous coupent le souffle par leur contemporanéité. Cette émergence du passé, Kenzo Tange voulait la maîtriser afin qu'elle facilite l'épanouissement des formes nouvelles, mais sans la laisser transparaître. Il avait résumé ainsi sa pensée sur ce point. Le rôle de la tradition est celui d'un catalyseur qui permet la réaction chimique, mais qui n'est plus détectable dans le résultat final. La tradition peut bien sûr être en œuvre dans une création, mais elle ne peut plus être création elle-même. Ce que le présent doit prendre au passé dans l'élaboration de l'avenir est objet de réflexion pour tout architecte. Plus généralement, ce doit être une interrogation permanente pour toute personne qui porte une responsabilité dans le domaine de l'habitat, dans toutes les civilisations et sous tous les cieux. Pour chercher de comprendre les conditions dans lesquelles Kenzo Tange a apporté sa contribution à cette réflexion, il est nécessaire de se reporter au début du XXe siècle. Nous sommes en 1913, l'année qui suit l'avènement de l'empereur Yoshihito et le début de l'ère Taisho, sur l'île de Shikoku, au sud du Japon. Kenzo Tange est en effet né là, à Imabari, petit village côtier qui s'ouvre sur des bras de mer reliant la mer intérieure et le large. Hiroshima se trouve à 60 kilomètres d'Imabari, au nord-ouest, sur l'autre rive de cette voie marine. L'ère Taisho est une ère d'ouverture souhaitée et voulue vers l'Occident. Elle s'opposera à la période de l'immédiat après-guerre, où la réception des valeurs américaines fut pour une bonne part contrainte. Kenzo Tange naît donc dans un pays en mutation. Cela explique peut-être pourquoi un autre architecte japonais, un peu plus âgé que le jeune Kenzo, Kunio Maekawa, part à Paris en 1928 pour faire ses armes avec Le Corbusier. C'est là que beaucoup de choses se nouent. En effet, Kenzo Tange, après avoir obtenu son diplôme d'architecture de l'Université de Tokyo en 1938, travaillera jusqu'en 1941 pour Kunio Maekawa. Pendant qu'il se forme auprès de lui, Kenzo Tange revient à l'Université de Tokyo pour étudier l'urbanisme. C'est là qu'il fondera le laboratoire Tange, dans le cadre duquel il conseillera de jeunes architectes, dont Sachi Otani, Takashi Asada, Taneo Oki, Kisho Kurakawa, Arata Isozaki et Fumihiko Maki. Les deux derniers me sont bien connus. Arata Isozaki est l'architecte choisi par l'Université d'Asie centrale, dont je suis le chancelier, pour construire les trois campus du Tadjikistan, du Kyrgyzstan et du Kazakhstan. Quant à Fumihiko Maki, il est le concepteur du musée Aga Khan à Toronto et de la délégation de l'imamat ismaili à Ottawa. Au-delà de la formation universitaire et de ses premières expériences auprès de ses maîtres, on ne peut passer sous silence l'influence sur Kenzo Tange du débat sur la japonitude, néologisme dont on a désigné la querelle qui parcourut le Japon de 1920 à 1960. Il s'agissait non seulement de l'influence du passé sur le présent et l'avenir, mais plus généralement de la question de savoir si le Japon devait développer sa propre culture de la modernité ou adopter le style international qui diffusait alors dans le monde, essentiellement à partir des États-Unis. Mais revenons à Kenzo Tange, qui est sur le point d'entrer dans la vie active. Il est diplômé, il a été formé par des maîtres prestigieux, il est pénétré de l'immense tradition japonaise et de modernisme international. Tout se présente sous les meilleurs auspices. Le jeune homme est prêt à voler de ses propres ailes. Sa vie est cependant bouleversée par la guerre. Kenzo Tange tient cependant sa vie fermement en main et ses qualités, de fait, vont se déployer dans l'adversité. Il s'installe à son compte, est nommé en 1946 professeur assistant à l'Université de Tokyo et en 1947 membre de l'Agence pour la reconstruction du Japon. C'est en ses qualités qu'il participe à très haut niveau à la renaissance de la ville d'Hiroshima selon un concept moderne et aéré. Il signera à cette occasion de nombreux monuments qui entoure le mémorial de la paix, cette ruine d'un immeuble d'Hiroshima, resté debout, célèbre dans le monde entier et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. C'est ainsi que Kenzo Tange concevra et réalisera le cénotaphe, le musée mémorial de la paix, la flamme de la paix, et plus récemment, le Mémorial national de la paix pour les victimes de la bombe atomique. Kenzo Tange devient alors un architecte dont on célèbre les qualités. 1960 et 1970 sont des années qui marquent respectivement la World Design Conference de Tokyo et l'exposition universelle à Osaka. À cette époque, Kenzo Tange est proche du mouvement dit métaboliste, animé par Kurokawa et Maki, ses élèves d'antan. Cette école s'est rendue célèbre par l'idée qu'il fallait privilégier les lois de l'espace pour réinventer celles qui, traditionnellement, s'appuyer sur la forme et la fonction. Kenzo Tange fut considéré dans cet intervalle de temps presque comme l'architecte en chef de cet état maître d'œuvre qui marquait alors fortement le Japon de son empreinte. Cette reconnaissance de fait lui permetta de concevoir des œuvres considérables, en particulier son projet urbain pour Tokyo. Cette dimension de Kenzo Tange ne l'empêcha pas, cependant, de forger sa propre doctrine. Il déclara ici même avoir acquis assez tôt une certitude qui avait déterminé sa manière de penser l'architecture et l'urbanisme. Il s'agissait du rapport entre espace et objets physiques, qu'il analysait ainsi. L'espace urbain et architectural, auparavant ouvert, aéré, exerçait en fait une force d'attraction. J'avais de plus en plus le sentiment que les espaces que j'avais interprétés précédemment comme étant créés par l'écartement des objets physiques exerçaient au contraire une force qui faisait adhérer ces objets. J'arrivais peu à peu à considérer l'espace comme une énergie d'adhérence réellement active. La pureté et la profondeur de ce propos font mieux comprendre le sens de l'œuvre de Kenzo Tange. Il est difficile ici d'analyser individuellement ses œuvres. Je voudrais cependant distinguer le merveilleux musée des arts asiatiques de Nice, 4 cubes dévolus aux civilisations chinoises, japonaises, cambodgiennes et indiennes, musée dont on peut dire, pour reprendre une autre expression du grand architecte, que c'est une beauté qui convient, par opposition à la recherche de la nouveauté pour la nouveauté. Au-delà du grand penseur des formes, Kenzo Tange était un homme d'affaires, parfaitement à son aise dans la vie du monde. Il ne redoutait pas la concurrence et adorait emporter des marchés devant ses confrères. Sa lutte confraternelle avec IMP sur plus de 20 ans était bien connue de la rumeur. Et cette rumeur voulait qu'un immense fou rire prenne Kenzo Tange quand il apprit que son immeuble de Singapour dépasserait en hauteur celui qu'avait conçu IMP. Vous pensez bien que je n'ai pas vérifié cette histoire auprès de M. Pei. Kenzo Tange fut aussi un enseignant admiré et recherché dans de nombreux grands pays, même si vers la fin de sa carrière, il critiqua les tâches administratives qui lui incombaient et qui l'empêchaient de consacrer à ses étudiants tout le temps qu'il souhaitait. Kenzo Tange est ainsi l'homme accompli par excellence, un maître en sa profession et son art. Il laisse une œuvre immense que l'on peut admirer dans le monde entier. Il laisse des esprits bien formés. Il laisse une conception du rapport entre la structure et l'espace. Il a surtout identifié pour nous la nécessité de traiter ensemble, sans jamais les séparer, 5 thèmes centraux. L'architecture, l'urbanisme, l'éducation, la continuité culturelle et la technologie. Courte liste dont la simplicité des termes dissimule l'importance fondamentale. Nous nous souviendrons de lui. Mon cheminement a été très différent, en ce sens qu'il s'agissait d'autres cultures et d'autres régions du monde. Il fut pourtant parallèle à bien des égards. Lorsque j'ai succédé à mon grand-père, j'ai très vite réalisé l'immensité de ma responsabilité à l'égard des millions de membres de ma communauté répartis en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. J'ai constaté en particulier que l'amélioration de leur qualité de vie passait nécessairement par des progrès décisifs de l'habitat. Après avoir observé le développement fulgurant dans le monde entier du style international, question que j'évoquais tout à l'heure à propos du Japon, je me suis demandé s'il était souhaitable que le monde musulman suive cette voie. La seule chose évidente était que la réponse ne l'était pas. À ma connaissance, personne ne s'était posé cette question et il était clair que je ne pouvais seul trouver la solution, même si je ressentais parfaitement que les identités culturelles musulmanes étaient fondamentalement en cause. J'ai alors réuni des penseurs musulmans de toutes origines pour vérifier si mon interrogation était partagée et, dans l'affirmative, pour examiner l'opportunité d'agir ou, au contraire, de laisser faire. Des idées divergentes s'exprimèrent, certains estimant que la symbolique religieuse devait avoir la primauté dans l'expression architecturale, d'autres que l'architecte devait pouvoir s'exprimer sans être tenu à des références spirituelles, d'autres exprimant un arc-en-ciel de point de vue intermédiaire. Cependant, tous avaient conscience de l'existence d'une question sans réponse. Une parfaite unanimité s'exprima en revanche sur la nécessité d'agir par un vaste programme d'études et d'analyses. Pour cette seconde étape, j'ai élargi le groupe d'origine à des personnalités venues de tous horizons, architectes, historiens d'art, sociologues, économistes, philosophes de toutes les écoles de pensée, croyants, athées, agnostiques et théologiens de toutes confessions. Nous avons regardé. Il faut imaginer un monde d'1,4 milliard de personnes ayant en commun une religion dont vous savez la complexité des courants qui la traversent. Ces peuples sont distincts par l'histoire et les cultures, par ordre alphabétique notamment africaine, arabe, asiatique, perse et turc. Ils sont marqués en outre par ce que Montesquieu appelait la théorie des climats, les uns habitant les déserts les plus torrides, les autres les montagnes les plus hautes, les uns souffrant des inondations et les autres devant conserver précieusement chaque goutte d'eau, les uns riches et les autres affligés de la plus redoutable pauvreté. Ces différences expliquent la diversité remarquable de l'habitat en pays musulmans. Elles n'expliquent pas, cependant, dans des époques récentes, le désamour, voire le rejet, parfois la destruction inconsidérée de ce qui fut ce passé, en grande partie aujourd'hui disparu. Elle n'explique pas non plus pourquoi les architectes d'une culture musulmane donnée ignoraient les traditions d'architecture d'autres pays d'islam. Elle n'explique pas, enfin, pourquoi jusqu'à la fin des années 1970, aucun architecte important d'un pays musulman n'avait été formé à nos traditions architecturales. Bien au contraire, les élèves architectes musulmans leur tournaient le dos et se formaient exclusivement en Occident. Et puisque les écoles d'architecture de l'Occident n'offraient aucune formation sur l'architecture d'inspiration musulmane, les jeunes diplômés ne pouvaient que reprendre avec enthousiasme d'ailleurs la culture de l'Ouest, ses goûts, ses matériaux et les formes adaptées au climat des pays tempérés. Au-delà de la question de la formation des architectes, les maîtres d'ouvrage eux-mêmes étaient presque toujours inconscients des traditions architecturales de leur pays, qu'il s'agisse des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Il ne s'agissait en rien d'un réflexe de défiance vis-à-vis de ces traditions culturelles. Ce qui était recherché était sans le moindre doute une amélioration de la qualité de la vie. Mais à l'époque, personne n'avait conscience que ce progrès pouvait être obtenu par un ressourcement des traditions. L'architecture n'était pas le seul art touché par ce phénomène. Un gouffre, le mot n'est pas trop fort, apparaissait entre les tenants du monde du passé et ceux qui se tournaient vers l'avenir en se désintéressant du passé. Cette tension, exerçant une influence négative profonde sur les relations entre personnes, entre courants religieux et entre États. En quelque sorte, une version nouvelle de la querelle des anciens et des modernes qui fut débattue et qui s'apaisa dans l'enceinte de l'Académie française à la fin du XVIIe siècle. Pour s'écarter de cette pente dangereuse, il nous a semblé qu'une reconnaissance du passé dans tous les domaines de l'art devait permettre aux sociétés musulmanes de considérer leur pluralisme sous un nouveau jour, un pluralisme légitimé par l'histoire et la culture. J'ai la conviction que cette acceptation revendiquée et fière de notre pluralisme, par effet d'entraînement, devrait contribuer à atténuer les tensions entre communautés musulmanes, mais aussi entre musulmans et non-musulmans. Les responsables politiques auxquels nous avons confié nos convictions furent pour la plupart intéressés par le constat de rupture entre la tradition et l'avenir. Beaucoup exprimèrent cependant une certaine frustration. En effet, ils pouvaient légitimement nous dire « Vous avez su faire l'état des lieux, mais que proposez-vous pour sortir de l'impasse ?» Nous nous sommes alors remis au travail. Pendant des années, nous avons cherché, nous avons enquêté, nous avons réfléchi. Des intellectuels d'une vingtaine de pays d'Asie, des Amériques, d'Europe et du Moyen-Orient nous ont apporté leur contribution au cours de centaines de réunions, séminaires ou congrès qui se sont tenus tout autour de la planète. Ces travaux ont fait l'objet de comptes rendus, de publications, de thèses de doctorat et de cours universitaires. Ils ont été également à l'origine de notre implication directe dans la lutte contre la pauvreté dans les villes anciennes, au travers du programme Aga Khan pour le soutien des cités historiques. Nous avons examiné des dizaines de sujets fondamentaux. Quelques exemples. L'éducation architecturale dans le monde musulman, l'extension des métropoles, la métamorphose de l'urbanisme sous l'effet du développement, l'évolution de l'habitat rural, les agora dans le monde musulman, la critique en architecture, la symbolique architecturale face à l'identité de l'individu, le régionalisme en architecture, ou encore l'acte de conservation du patrimoine comme clé de la survie culturelle. Ce fut un processus ininterrompu sur plus de 30 années, un processus que nous voulons pérenne afin de ne pas passer à côté de ce qui fut ignoré dans le passé. Des choses toutes simples, comme le fait que l'histoire avance, que les matériaux et les goûts évoluent et que les équations économiques et sociologiques se modifient constamment. Cette démarche analytique a été suivie de synthèse. Tout d'abord, nous avons posé que la connaissance du passé était indispensable, quelle que puisse être son influence sur l'avenir. Nous avons en conséquence rassemblé une base de données très complète sur l'histoire de l'architecture dans les sociétés musulmanes, sans distinction de courant historique ou religieux. Cette base est accessible sur le site ArchNet au Massachusetts Institute of Technology. Nous avons aussi considéré qu'il fallait mettre en place des outils éducatifs ouvrant sur l'histoire de ces architectures. Il s'agissait en particulier de donner un accès à la symbolique traditionnelle, par exemple la symbolique de l'eau ou celle du jardin mystique. Je citerai ici le programme Aga Khan d'architecture islamique enseigné à Harvard et au Massachusetts Institute of Technology, ces universités où Kenzo Tange enseigna. Des centaines d'étudiants sont titulaires de diplômes délivrés dans le cadre de ce programme. Nos travaux m'ont également persuadé qu'au-delà de la connaissance du passé architectural, il était impératif de faire connaître les œuvres des architectes de notre temps et du futur, afin qu'elles puissent à leur tour être objet de fierté. De façon peut-être plus essentielle, je voulais que ces œuvres nouvelles prennent leur place dans la chaîne ressoudée qui relie le passé et l'avenir. La gamme de ces œuvres nouvelles est vaste. Restauration d'habitats anciens, extension d'agglomérations, amélioration de la qualité de la vie dans les environnements ruraux, mais aussi conception d'ensemble dont la notion même n'existait pas dans notre passé. Par exemple, les aéroports, les ensembles de bureaux, les centres commerciaux ou les hôpitaux multidisciplinaires. Tout ceci dans un monde marqué en profondeur par la révolution de l'informatique. C'est ainsi qu'est né le prix Aga Khan d'architecture. Je m'honore à cet égard d'avoir pu compter Kenzo Tange parmi les membres du premier jury. J'ai été particulièrement heureux qu'il ait applaudi au fait que ce prix récompense non seulement les valeurs esthétiques, mais aussi les valeurs sociales. Les architectes français ont aussi été à l'honneur. En effet, 8 d'entre eux ont été distingués par les jurys du prix. Dans l'ordre chronologique, André Ravreau, Serge Santelli, Michel Ecochard, Paul Andreu, Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lézénès et Marilène Barré. Les architectes qui ont puisé aux nouvelles sources de connaissances sur les cultures islamiques ont été à l'origine d'un cercle vertueux. Les leçons tirées de leurs réalisations dans le monde rural et urbanisé, enrichissant nos bases de connaissances. Nous avons tiré des leçons importantes de ces réalisations. Tout d'abord, nous avons constaté que pour avoir un effet sur une population importante, un projet de réhabilitation ou de reconstruction doit prendre en compte tout un quartier et non tel et tel immeuble isolé, aussi important qu'il soit culturellement. Nous avons été par ailleurs convaincus que le renouveau de l'habitat est en soi insuffisant et qu'il doit se combiner avec une réhabilitation des espaces publics, des services médicaux et des écoles, et ce, en utilisant les outils modernes de financement, sans oublier le microcrédit et la microassurance. Ces réalisations nous ont enseigné également que l'action de réhabilitation ou de reconstruction d'un quartier constitue en soi une source de renouveau économique. Autrement dit, une population dont l'habitat a été amélioré régénère d'elle-même son environnement économique. Enfin, nous avons fait le constat essentiel que le renouveau de l'habitat dans le cadre d'une approche culturelle ressourcée a des conséquences pérennes au bénéfice, en particulier, des plus pauvres. Vous aurez observé que les thèmes fondamentaux sur lesquels nous nous sommes interrogés, avons agi et sur lesquels nous nous déterminons pour l'avenir sont l'architecture, l'urbanisme, l'éducation, la continuité culturelle et la technologie, c'est-à-dire précisément les mêmes thèmes que ceux que Kenzo Tange avait identifiés. Ainsi, avec une chronologie décalée, avec des histoires et des géographies différentes, nous avons identifié séparément les mêmes axes fondamentaux, comme s'ils existaient de tout temps, en dehors de nous. C'est le mérite de Kenzo Tange d'avoir discerné en premier l'importance de ne jamais les séparer. Après vous avoir invité à me suivre loin de France, je voudrais y revenir pour vous dire que c'est avec cette expérience à l'esprit que j'ai évoqué la question si importante du devenir du domaine de Chantilly avec le gouvernement français, M. Pierre Messmer, alors chancelier de l'Institut de France, son successeur, le prince Gabriel de Breuil, M. Éric Woerth, ministre de la République et maire de Chantilly, et Jean-Luc Lagardère, président à l'époque de France Gallo. Le projet était très différent de ceux que j'ai connus précédemment, puisqu'il est situé dans ce pays de France, l'un des plus développés au monde. Cette France qui a réfléchi depuis des siècles au rapport du passé avec le présent, notamment dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Le respect de cet environnement français s'imposait donc à l'évidence, mais il devait, à mon sens, intégrer deux dimensions que j'avais observées sous d'autres cieux. Il fallait considérer le domaine comme un ensemble. Ainsi, sauver le champ de course seul n'aurait jamais pu, à mon avis, apporter la dimension nécessaire pour ouvrir une destinée renouvelée au musée Condé, au parc Le Nôtre et aux grandes écuries. Il fallait également, en donnant le temps au temps, créer les conditions pour que chaque partie prenante identifie les solutions économiques qui éviteront à l'avenir la remise en cause des efforts entrepris. Mon vœu très cher est que l'on puisse dire dans quelques années que l'apport de cette expérience aura été utile. Les initiatives que nous avons prises pour la réhabilitation de sites historiques dans le monde en développement, nous ont démontré qu'un élément clé du succès est l'engagement ensemble de tous les partenaires, publics, privés, sociaux et culturels, autour d'un projet commun. Le site de Chantilly est unique, mais sans le soutien de tous, rien n'aurait pu être entrepris. La France a fait encore une fois la démonstration qu'impossible n'est pas français. Mes chers confrères, voilà ce que je voulais vous dire de l'œuvre de Kenzo Tange et de ma propre expérience. Je souhaite que nos réflexions sur le passé, le présent et l'avenir, chacun avec ses responsabilités, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son histoire, auront été utiles à ce que nous avons voulu servir. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance d'installation du prince Karim Aga Khan, reçu membre associé étranger à l'Académie des Beaux-Arts.